Bonjour et bienvenue pour ce hors-série d'Oleti. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci je suis l'invitée d'un podcast qui s'appelle Océanienne Inspirante, un podcast calédonien où j'ai eu le plaisir de me dévoiler durant, accrochez-vous bien, 2 heures. Ce sera donc 2 épisodes que je vous partage dans ces 2 hors-séries d'Oleti. Bonne écoute et bonne découverte parce que vous verrez qu'il y a des choses que je ne vous ai jamais dites. Avant de démarrer notre échange avec Alexandra, j'en profite pour vous parler des 2 événements que j'organise en octobre. Le premier, ce sera mon challenge Stand-up Paddle Yoga qui aura lieu du 2 au 7 octobre. Je t'invite à regarder le lien dans le descriptif de cet épisode. Et bien sûr, à la fin d'octobre, je serai dans la magnifique vallée de la Tchamba en Nouvelle-Calédonie pour une retraite retour aux origines. On va faire du stand-up paddle, descendre une rivière, être logé en tribu et bien évidemment pratiquer le yoga tous les jours. Là aussi, si ça t'intéresse, tu peux regarder le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Océanienne Inspirante. La Nouvelle-Calédonie est son berceau et je suis Alexandra Gazarian, sa créatrice. À travers ce podcast, je souhaite mettre en lumière et vous faire découvrir sans filtre les femmes océaniennes. Elles vous raconteront leur parcours de vie, leurs projets, aussi bien professionnels que personnels, culturels, associatifs. Grâce à ces écoutes, j'espère vous communiquer leur courage et leur audace. Quelles que soient vos origines, vos envies, vos rêves, soyez inspirés, soyez vous-même et bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Océanienne Inspirante. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Sarah Ebert. Alors, je suis en pleine reprise après une pause, et oui, pas d'enregistrement depuis novembre, et j'ai été contactée par Sarah, chose qu'habituellement, du coup, je refuse plus ou moins les invités, parce que ça correspond un peu moins à ma démarche. Et en fait, Sarah a une démarche très sympa, où elle m'a envoyé ses contacts, et je me suis dit, mais quelle Océanienne Inspirante, il faut vraiment l'interviewer. On s'est rencontrés, je me suis un peu renseignée sur son parcours de vie et du coup voilà, merci d'être avec moi aujourd'hui Sarah, bienvenue dans ma nouvelle maison, nouveau lieu d'enregistrement et du coup je vais te laisser commencer et te présenter auprès de nos auditrices et nos auditeurs.
Merci Alex, et moi je suis revenue parce que tu m'as appris par les sentiments en m'offrant un bon gâteau à la praline, voilà. je suis une grande gourmande. À part être gourmande dans la vie, je suis aussi une gourmande de la vie. J'aime la vie profondément. J'ai grandi sur un voilier pendant plusieurs années, 12 ans. Et ensuite, on m'a plus connue ici sur le territoire pour ma carrière sportive de haut niveau en planche à voile que j'ai réalisée en Europe et dans le monde entier pendant 15 ans. Ensuite, j'ai fait plutôt de l'expédition avec la traversée de l'Atlantique en planche à voile notamment. Et puis, dernièrement, avec l'envie de devenir maman et de repartir à l'aventure en famille, avec mon compagnon, on a décidé de prendre la mer au départ d'Etel, en Bretagne, pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie, avec un voyage qui a duré au final 5 ans, dont une pause de 2 ans en Polynésie française. Et ben voilà, de retour sur mon caillou. Très heureuse d'être là de retour. Ça fait 20 ans que j'avais quitté le territoire après le bac, en fait. Hein. Je revenais chaque année voir ma mère, mon frère, pour m'entraîner ici et voir ma famille, mais ça faisait longtemps que je n'habitais plus ici.
Mais comme tu disais, tu revenais tous les ans.
Je revenais tous les ans. Là, ça faisait quand même 7 ans que je n'étais pas revenue. J'ai vu quelques changements.
Ah, et quels sont les changements que tu as vus? Les principaux?
Ça grouille, que ce soit l'aménagement du littoral avec plusieurs parcs, le fait qu'il y a beaucoup plus de métropolitains trentenaires aujourd'hui, qu'il y a beaucoup plus d'activités sportives, culturelles. Non, c'est plutôt dans le bon sens. Je ne connais presque plus personne dans les rues, mais à part ça, ça va.
Du coup, tu es en total anonymat tranquillement.
Non, en plus, c'est pas vrai parce qu'au fur et à mesure, je retrouve des anciens collègues d'école, des anciens amis de sport.
Et là, justement, vu que tu parles un petit peu des collègues d'école, explique-nous. Alors déjà, tes parents sont natifs de Nouvelle-Calédonie ou ils sont venus...
Non, pas du tout. En fait, ma mère était infirmière et dès qu'elle a eu son diplôme, elle voulait partir voyager à l'étranger. Et donc, elle a trouvé une place à l'hôpital de Gaston-Bourré. Donc, ils se sont mariés, ils sont venus ici. Et c'est assez rapidement, finalement, que toujours maman a vu un voilier à vendre. Elle a dit à mon père, il ne se plairait pas qu'on parte à l'aventure. Et voilà, on a acheté ce bateau. Et quand j'avais un mois seulement, dans le petit port de Sunset Marina, là-bas, il n'y a rien à l'époque. On était en plein événement en 84. Je suis née et un mois après, on partait pour une aventure qui a duré 12 ans.
D'accord. Donc, toutes tes 12 premières années, on va dire, tu étais en mer.
C'est ça.
À voyager un peu partout autour du monde.
Principalement dans l'océan Indien. On est parti direction nord ici. On a fait la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie, le nord de l'Australie. On avait fait le Vanuatu aussi. Après, on a traversé l'Indien pour aller jusqu'à Mayotte, la Réunion, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, Madagascar, le Kenya, et on est revenu à La Réunion pour vendre le bateau. Tom est né entre-temps à La Réunion. Tom, qu'on connaît aussi ici, parce qu'il a été, lui, champion de kitesurf.
Tom, qui est ton frère.
Voilà, Tom Hébert est le frère de Sarah, le petit frère de Sarah Hébert.
Oui, précise-le, parce qu'en plus, c'est drôle, quand j'ai dit que j'allais t'avoir comme invité, on me fait « Elle a un lien avec Tom Hébert ?» Oui, un petit peu. Et du coup, c'est assez rigolo. Vous avez du coup grandi dans des contextes totalement différents. Tous les deux, on va dire, le côté plutôt océan Indien.
Notre jeune enfance, ça a été en voilier. Mais Tom, finalement, il a quand même beaucoup moins de souvenirs que moi. Lui, il est arrivé ici, je crois qu'il était au CP. Donc finalement, c'est un vrai Calédonien. Il n'y a qu'à voir ses centres d'intérêt, sa façon de parler. Il pourrait être réunionnais aussi, c'est un peu comme ça, ceci dit. C'est en fait ce qui est vraiment différent dans la façon qu'on a eu de grandir, c'est cette ouverture d'esprit sur les différentes cultures qu'on a rencontrées, le fait d'être très tôt responsabilisé à bord, d'avoir un rôle à jouer, même si on était enfant, parce qu'on était en danger dans une nature qui est plutôt hostile, hein. À l'époque, les systèmes météo n'étaient pas du tout développés comme aujourd'hui, donc on partait en mer sans trop savoir ce qui allait nous tomber dessus. C'était vraiment la grande aventure à l'époque, ouais. Bon, moins qu'à l'époque de James Cook, on est d'accord, mais aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus facile avec tous les traceurs, tous les systèmes météo. On a des routeurs pro qui coûtent pas très cher si on veut les engager pour nous aider à nous aiguiller pendant une grande traversée, donc c'est vraiment top. Ouais.
Et du coup, toi qui as des souvenirs beaucoup plus prononcés, on va dire, de tes années d'enfance en océan Indien, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que ça t'a réellement apporté dans cette découverte des cultures et des manières de faire?
Qu'il n'y avait pas de normalité. Que tout était possible. Que sa différence, c'était le droit d'exister, en fait. Et que le meilleur passeport pour la vie, c'était sa capacité à s'adapter, en fait. C'était ça, la grande... le gros bonus, comme quand on joue, moi, à l'époque, je jouais à la Nintendo, à Super Mario, et ben, l'étoile qu'il fallait choper pour réussir dans la vie, c'était être capable de s'adapter à tout. Toute situation, voilà.
J'aime beaucoup la référence.
Ouais. Je suis allée voir Super Mario avec les enfants au cinéma récemment.
On m'a dit qu'il était très bien.
Il est très bien.
Il est très bien, mais je vais vraiment peut-être le regarder alors. Retour à l'enfance et à l'adolescence, ouais. Quoi. Du coup, Tom, vous avez combien d'écart avec ton frère ?
Presque 4 ans.
4 ans. Et du coup, vous revenez ici quand t'as à peu près 12 ans. Mm-hmm. Et là, vous partez vous restez en Calédonie pendant combien de temps ?
Oui, tout le temps, en fait.
Tes parents repartiront
non,
plus
non,
après ?
Non. Non, parce qu'après, une fois que t'es ado, en fait, voyager avec des adolescents, c'est plus compliqué. Les enfants, ils ont plus du tout envie d'être avec leurs parents, ils préfèrent être avec un groupe. Moi, je conseille aux gens qui veulent partir en bateau de le faire avant les 12 ans de leurs enfants. Ou si ça a lieu après, faut pas que ça dure plus de 6 mois, 10 mois, un an grand maximum, hein. Sinon, ça va être le pugilat à bord. Donc, ouais, on s'installe ici. D'abord, mon frère et moi, on fait de la natation en compète, un peu d'optimiste, et puis l'école, avec tous ses codes, la société, avec tous ses codes. Moi, c'est une grande gifle, hein, parce que j'arrive en CM2 pour la première fois à l'école. Et Tom, c'est peut-être un peu moins violent, ouais. Puis je suis en période prépubère, on va dire, j'ai 12 ans, il y a pas mal de choses qui jouent à cet âge-là, ouais.
Ouais, du coup, ça t'a fait un vrai choc d'arriver ici.
Ah oui, non, clairement, j'ai regardé ma mère, je lui ai dit, non, mais si c'est ça la vraie vie, j'en veux pas, on repart, quoi. Et mon frère, lui, il a dit à maman, non, mais ça va durer encore longtemps, cette histoire, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire qu'être assis toute la journée dans une classe, hein.
Ça se passait comment, du coup, l'école avant?
Quand vous étiez on a été un petit peu à l'école, à La Réunion et en Afrique du Sud. Je sais plus au maximum combien de temps. Peut-être quand même à La Réunion, j'avais fait une année. Moi, en Afrique du Sud, c'était plutôt quelques mois. Et sinon, surtout moi, parce que Tom était petit, j'ai fait le CNED. Et alors ça, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça que je savais que je voulais pas faire CNED avec mes propres enfants. C'est une des meilleures écoles. Franchement, c'était vraiment top. Mais ça demande un investissement énorme pour les parents. Et pour les enfants, c'est fatigant aussi parce que le niveau est super élevé. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc il fallait renvoyer les cours par la poste, donner une autre adresse dans le port suivant pour les recevoir, les corrections, les nouveaux cours, etc. Et puis voilà, mes parents, c'est pas des profs. Des fois, ils perdaient patience. Moi, j'étais hyper rêveuse. Non, c'était pas une partie de plaisir.
Ouais. Au final, c'était l'avantage d'avoir une école et de pouvoir se dire, bon, on part. Même si c'était très cadré, du coup, parce que j'imagine que quand tu fais le CNED, le matin, tu peux peut-être faire de la voile, du PLT.
En général, les familles choisissent de faire école le matin et l'après-midi, c'est libre.
Ouais, comme ça, le plus dur est fait, entre guillemets.
Ouais, ouais.
Et après, du coup, hop, un peu de détente et de sport, quoi.
Ouais, exactement. Exactement. Non, j'avais quelques lacunes, moi, en maths, en arrivant, un peu en orthographe aussi. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'en France, on avait fait quelques mois d'école avant de revenir ici en Calédonie. Et j'étais tombée sur un prof exceptionnel et j'ai tâché de m'en souvenir après pour le reste de mon cursus, qui a su mettre en avant les apprentissages que j'avais eus grâce à ce voyage-là. Et du coup, il m'avait fait faire des exposés sur les cultures que j'avais rencontrées, les pays que j'avais traversés, etc. Donc,
ça te permettait de revoyager à travers les explications
Non, mais je me suis souvenue, c'est moi qui présentais devant la classe. Et je me suis souvenu que finalement, il y avait plein d'apprentissages, plein d'aptitudes que j'avais développées dans ce voyage, qui n'étaient pas forcément valorisées dans le programme scolaire, mais qui allaient me servir pour la suite. Et cette capacité à pouvoir parler face à un public, à raconter des histoires, à vouloir partager, à être passionnée par l'environnement, à savoir observer, écouter, sans juger, je pense que c'est des valeurs qui me guide, ce goût de l'effort aussi, du geste bien fait, ça m'a suivi derrière à haut niveau. Ouais.
Et c'est à peu près à ce moment-là où, du coup, c'est vrai que malgré tout, ça t'a maintenu en haleine et j'imagine que ça t'a motivé à voyager par la suite. Et du coup, ça a été un peu dans tes leitmotivs pour te dire, bon, bah, ok, je fais cette partie école et après, je partirai, je relancerai les voyages, etc.
J'ai toujours su qu'un jour, je repartirai en mer, en bateau. Ouais. Ça, je l'ai toujours su parce que j'adore cette ville-là. Et après, l'école chantait bien que c'était vraiment important et j'étais plutôt une élève obéissante, j'étais une enfant assez timide et réservée au départ. Et non, il y avait un plan, moi j'étais gentille, bien élevée et j'ai suivi le plan en fait. Hein, j'ai suivi le chemin que tout le monde avait l'air de prendre sans trop se poser de questions.
Ouais, on écoute ce que nous disent nos parents quand on est enfant.
C'est ça.
On n'a pas trop le choix, tu vois, même si on n'a pas très envie d'aller des fois à l'école.
Non, et moi, la grande révélation, ça a été ma passion, la planche à voile. Ouais. C'est ça qui m'a vraiment aidée, révélée. Enfin, c'est incroyable l'impact que ça a eu dans ma vie, en fait.
Et ça a été à quel âge?
Ben, assez tôt, en fait, à 12 ans, j'ai fait mes premiers ports en planche à voile. Et puis, en fait, j'ai cassé mes doigts, donc...
Cassé tes doigts?
Ouais, j'ai coincé mes doigts dans le wishbone avec le vent, ça s'est retourné. Et ça s'est mal passé après à l'école. En fait, ma prof a cru que je faisais exprès de pas vouloir faire la dictée parce que ma mère m'avait fait une petite attelle, mais on n'était pas encore allé mettre un plâtre. D'ailleurs, je suis même pas sûre qu'on a mis un plâtre, l'attelle suffisait. Et du coup, elle pensait que je faisais exprès pour pas faire la dictée parce que j'étais nulle en dictée. Du coup, je me suis dit, bon, c'est fini, la planche, plus jamais. Et à l'époque, donc, je faisais de la natation, puis de la natation synchronisée. Et pour aller à mon club de natation synchronisée, les Naïades, au Ouentoro, que je salue d'ailleurs, en fait, je passais tous les jours devant, enfin, à chaque fois que j'y allais, quoi, devant l'Ansvata, avec ses centaines de planches à voile. À l'époque, la planche était vraiment beaucoup pratiquée. Et je me disais, quand même, ça a l'air cool, il faut que je réessaye. Et comme il y avait une vieille planche dans le garage de mes parents, un jour j'ai réessayé. Et là, ça y est, là, j'ai vraiment accroché. Et en fait, ce qui est dingue avec la planche, c'est la glisse. La première fois qu'on découvre le planning, où en fait, quand on avance doucement, toute la planche est collée contre l'eau. Et dès que la force du vent est retransmise par le corps dans la planche, là, on va plus avoir que l'arrière de la planche qui est collée à l'eau. Et on a une impression, ouais, de glisse qui est extraordinaire, comme en surf, en fait. Et ça, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et c'est d'abord, voilà, la passion, cette sensation-là que je suis allée chercher. Et j'étais tellement assidue qu'en fait, j'ai progressé hyper vite. Alors, j'ai été repérée par un entraîneur qui m'a dit, dès que tu sais jiber, tourner, je t'intègre à mon équipe. Il n'y avait que des mecs à l'époque, à la CPB, à la Côte Blanche. 15 jours après, je savais jiber, et c'est 6 mois après mes débuts, j'étais au championnat de France, que j'ai remporté en remportant toutes les manches. Là, ça a été un gros bouleversement dans ma vie, parce qu'en fait, quand je suis arrivée en CM2, je suis tombée sur une prof qui m'a dit que je serais bonne qu'elle technicienne de surface. C'est que vrai. Mes parents étaient des marginaux et qu'ils avaient pris un risque,
de vous emmener en mer,
de nous déscolariser.
Exactement.
Et donc, du coup, ben.
Ça, c'est vers quel âge?
12 ans. Donc, mon estime de moi a pris un coup à ce moment-là. Heureusement, après, avec le collège, j'ai retrouvé mes marques parce qu'on était un peu plus autonome, dans notre façon de gérer notre temps, de nous déplacer de salle en salle. J'ai préféré le collège. Mais, comme j'avais des lacunes dans certains cours et tout, et que j'avais pas les mêmes attitudes que les autres personnes, enfin, moi, j'étais pas forcément habillée avec les habits de marque, parce que ma mère me disait qu'il fallait pas qu'on soit lobotomisé par la société de consommation, et que de toute façon, on n'avait pas trop les moyens, il fallait qu'on refasse la caisse de bord. Parce que moi, dans la classe, je préférais parler de ce que j'avais vu dans les week-ends, les dauphins, la nature, et que les autres, ils me parlaient des dernières séries, des derniers dessins animés, des jeux
pas de
que
télé,
je connaissais pas.
Donc,
j'étais quand même un peu à part, quoi.
Ouais.
Et là, de la planche, d'un coup, valoriser un podium, des victoires, tout le monde qui me dit « Waouh, mais c'est génial !» Moi qui m'éclate là-dedans, je me dis « Mais en fait, en fait, je sais faire des trucs. »
En fait, j'ai plein de qualités.
Non, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et au-delà de ça, j'aimais ça, je vibrais pour ça, je ne pensais qu'à ça. Et ça n'a pas beaucoup changé. Tu vois, tout à l'heure, j'arrivais chez toi, je regardais la mer, je me disais, ça va peut-être planer aujourd'hui, en fait. C'est vrai que le vent, elle a pas si mal. Bon, quand est-ce que je vais pouvoir y aller dans ma journée?
Ah oui, alors non, mais toi, tu vivrais ici, tu serais tout le temps en train de regarder, genre, est-ce que c'est possible?
Ah non, mais c'était terrible. Blaise Pascal, mon lycée, il y avait des cocotiers partout. On était à 5 minutes de l'Ansvata. Dès que les cocotiers étaient trop flash, 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 mais là, j'étais là, non, mais c'est un supplice. Libérez-moi.
Et du coup, avec alors juste parce que c'est assez rigolo, tu m'as pas mal parlé de ta mère, mais du coup ton père dans l'histoire.
Oui, parce qu'en fait papa il est décédé à 48 ans d'un cancer. Et papa a eu un rôle hyper important dans nos vies, cette capacité d'observation, d'écoute, c'est aussi beaucoup de mon père qu'on l'a eu. Mais mine de rien, là, du coup ça fait longtemps qu'il est plus là. Donc c'est maman qui a pris un peu la relève.
Du coup, mais c'était lui, quelques années après.
C'était l'artiste de la famille. Il était bijoutier. Pour ceux qui ont connu la bijouterie Vullier, c'était le bijoutier derrière qui vous faisait vos belles bagues avec des diamants, des saphirs.
Ce qui explique aussi le choix des décisions de voyage dans un premier temps en océan Indien où on peut trouver pas mal de pierres.
Ouais, exactement. Je me souviens d'être allée avec lui en Afrique du Sud et même en Mozambique dans des carrières éclairées à la bougie. Les ouvriers nous sortaient des pierres avec encore un peu de terre et tout. Enfin, c'était incroyable. Mon père me racontait qu'il avait peur de se faire avoir, qu'il les touchait avec les dents pour voir si c'était des vrais. Enfin, fallait avoir l'œil aiguisé et puis avoir un peu de chance aussi, quoi. Ouais, ça pouvait aussi être. Mais je pense que des pierres, on en trouve un peu partout après quand on cherche.
Je m'y connais pas tant que ça.
Écoute, alors, pas sur les îles, il faut qu'il y ait de la terre.
Mais voilà, après, moi j'avais quand même l'impression de mémoire qu'il y en avait plus en Afrique.
C'est possible.
Ou plus facilement.
Ouais.
Tu vois? Alors après, peut-être la télé, internet, ou ce que je suis, tout simplement.
Oui.
Mais c'est vrai qu'en général.
Oui, c'est possible. Moi, je suis pas du tout une spécialiste.
Bah, pourtant, t'as fait sûrement plus de choses par rapport aux pierres.
Ouais, je voyais papa qui bossait. Ça m'amusait beaucoup quand il allait chercher des choses dans la nature pour les reproduire dans ses moules, que ce soit des fleurs, des feuilles. Des fois, il y a une fois, je sais pas si tu dois le dire, mais il avait chopé un tout petit maracuja qui était fraîchement mort, et pouf, il l'avait fait couler après dans de l'or pour me faire un joli petit pendentif.
C'est trop mignon, moi, je trouve. Pourquoi tu voudrais pas le dire?
Mais, ouais, c'était l'artiste, papa.
Ok. Et du coup, il est décédé d'un cancer quelques années après que vous soyez revenu ici?
Bah ouais, j'avais 22 ans, il en avait 48. Je m'étais pas rendu compte à l'époque à quel point 48 ans c'était jeune.
Et il y a 22 ans, j'ai l'impression que c'est que des vieux qui ont 48 ans.
Non, mais 48, on se dit, ben ouais, c'est pas de bol, c'est quand même trop jeune, surtout quand c'est son père. Mais en vieillissant, on se dit, ouais, 48, c'est vraiment trop jeune.
Ouais. Puis j'imagine, du coup, ça a été une période pas très évidente pour toi.
Ouais, ben moi, j'ai toujours eu cette philosophie de vie de par mes parents, de savoir que le plus important, c'était de faire ce qu'on voulait, d'être à l'endroit où on voulait être, donc de profiter, quoi. Mais à ce moment-là, on spoil un peu sur la suite de ton interview, mais il y a eu deux choses, il y a eu la perte de mon père et l'implantation de mon défibrillateur cardiaque.
Ah oui, t'as raison, on spoil. On va reprendre, ça va pas du tout. je pars dans tous les sens. Alors, c'est vrai que pour pouvoir repartir sur un peu ta carrière, en gros, là, on est sur les 12 ans. Tu te lances dans la planche à voile, passion, podium, victoire.
Et ben après ça a pu arrêter en fait. Je pensais qu'à ça tout le temps et bon bah mon
cursus les études en parallèle.
Continué, voilà, mon cursus scolaire a continué. J'ai choisi ES parce que je voulais faire océanographe ou vétérinaire mais j'étais pas assez bonne en maths pour faire S donc je suis allée en S.
Alors attends, ES économique et sociale.
Exactement.
Tu vois parce que vu que ça change tous les
voilà, économique et sociale. Et à l'époque, c'est drôle, je me souviens que j'aimais aussi ça parce que j'avais une petite fibre journalistique. Et vous allez voir que dans l'histoire, on y revient. Et puis ensuite, quand j'ai eu le bac, bah, fallait choisir. Et je me suis dit, tiens, si je choisis STAP, c'est des études qu'il n'y a pas sur le territoire. Faire du sport toute la journée, ça doit être bien cool. Et si je faisais ça? Donc, je suis partie en métropole, avant tout, pour être en Europe, au cœur du gratin mondial en planche à voile, et que ce soit beaucoup plus facile pour intégrer des équipes, m'entraîner, réaliser les compétitions, et accessoirement, faire mes études.
Mais du coup, t'allais déjà faire des voyages avant régulièrement en Europe pour les compétitions
ou pas? J'ai commencé, à 16 ans, je me suis déplacée toute seule pour la première fois jusqu'en Pologne pour faire un championnat. Ouais.
En Pologne, ça c'est rigolo.
Oui, la même mer Baltique. En fait, les Polonais à l'époque étaient des grands pratiquants de planche à voile. Je crois que ça allait encore, mais peut-être un petit peu moins, et ils avaient des énormes sponsors. On arrivait sur les plages avec des écrans géants, feux d'artifice. Enfin, c'était des festivals de planche à voile, carrément.
Mais du coup, c'est assez rigolo de voir que c'était vers la Pologne. C'est pas pour spoiler, mais on va voir quand même que ces coins-là, en fait, il y a pas mal de planches.
On s'en doute pas. Les Allemands sont très pratiquants de planche à voile aussi. Et les Français.
Donc, dans les numéros 1 mondiaux les plus pratiquants, on va avoir les Allemands.
On a Allemands, on a les Américains avec les Hawaïens surtout, on a les Anglais, les Allemands, les Français. Les Français qui sont très bons.
Ok.
Les Espagnols un petit peu aussi, Italiens un peu aussi.
T'as peur de te faire taper sur les doigts après.
Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, tout le monde est vraiment bien.
Tout le monde est vachement bien.
Je pense à un pote israélien, du coup, en disant ça. On n'est pas beaucoup en Israël,
mais ils débrouillent. Bon, et sans trop spoiler, tu t'inscris à STAPS, tu vas en Europe en espérant du coup combiner les deux, faire un peu de STAPS pour te permettre. Parce qu'à l'époque, tu vis pas du tout de la planche à voile.
Non, j'arrive, depuis le début, j'arrive à avoir des sponsors pour payer mes déplacements.
Voilà. Et en gros, ça te rapporte de l'argent pour pouvoir faire tes déplacements et ton matériel, j'imagine.
Oui. Mais après, très vite, je vais commencer à gagner des prize money qui, là, me permettront d'avoir des sous pour payer un loyer, des choses comme ça.
À partir de quand, entre guillemets, ça te permet d'en vivre en étant autonome?
C'est plus quand je commence la Coupe du Monde de slalom. Au début, j'ai commencé par la Formula Windsurfing, pour ceux qui écoutent et qui font la planche à voile, ils comprendront.
Bah, on veut bien que tu nous expliques, hein, parce que...
Non, en fait, le premier circuit, c'est un circuit... Ouais, qui a été suivi au début. Je me rappelle plus si on avait des prize money. Si, on avait peut-être quand même des prize money aussi sur cet événement. Mais après, en fait, c'est les sponsors, les marques de planches, les fabricants qui soutiennent certains circuits. Et les circuits qui sont soutenus par les fabricants ont assez de sous pour donner des récompenses en financières aux premiers. Et donc, sur la Coupe du Monde, je suis restée sur le podium pendant 3 ans et les 5 premières avaient du prize money, mais surtout les 3 premières. Et en plus, t'étais hébergé gratuitement par l'organisation quand tu restais dans le top 5. Donc, je suis restée un moment dans le top 5.
Du coup, t'es hébergé, c'est-à-dire qu'on te passe un appartement à l'hôtel, ouais, quand t'as toutes, ouais, les compètes, ouais, et les trucs, ouais, comme ça.
Okay.
Ouais, c'est quand même un gros avantage pour continuer, quoi. Il faut juste être dans le top 5.
Ouais. Accessoirement.
Accessoirement, un petit truc comme ça. Est-ce que on est sur... Alors, moi qui connais rien du tout, on en a parlé, tu sais bien. Est-ce que tu peux nous expliquer cette ambiance et comment ça se passe réellement dans ce milieu?
Ben, je me sers un thé. Pour ceux qui écoutent, je suis aussi une fana de thé. Et apparemment, Alex, pareil. Il m'a fallu un quart d'heure avant pour choisir.
Dans les nombreux paquets, voilà, de thé qui étaient dispo.
L'ambiance, elle est dingue. Imaginez, j'ai la chance de pas faire du ping-pong ou je sais pas, moi, du foot. En gros, ma carrière, ça a été de me déplacer aux quatre coins du monde sur tous les plus beaux spots de la planète, donc des plages, essentiellement. Donc, vous arrivez dans des endroits déjà qui sont en général beaux. Oui, même sur la mer Baltique en Pologne, c'est quand même beau. C'est des grandes plages énormes, des étendues de la perche.
Il fait super froid, il faut être super bien couvert.
L'eau est froide, parce que dehors, il fait chaud en été. Mais l'eau est froide, oui, en effet. Et puis, vous découvrez la culture à chaque fois des endroits où vous allez. L'ambiance entre les riders est assez bon enfant. Enfin, vraiment sympa, parce que contrairement aux disciplines olympiques... Nous, on n'a pas de sélection pour atteindre ces championnats-là, puisqu'on se débrouille pour trouver nous-mêmes nos financements. Et nos financements nous servent à nous rendre sur les championnats, mais on doit aussi les utiliser pour s'entraîner, trouver un entraîneur, faire un collectif si on veut se réunir. Enfin, donc il y a toute une démarche personnelle qui est intéressante, je trouve.
Ben, ça t'apprend et ça te forme aussi sur, ouais, plein d'autres aspects de ta vie.
Ah bah oui, bah clairement, moi, des dossiers sensoriques, j'en fais depuis que je suis gamine, donc quand il faut mettre en avant un projet, je sais comment le mettre en avant, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. J'ai développé des compétences en communication grâce à ça, notamment parce que derrière, on se fait interviewer par des médias. Ce qui se passe aussi quand on est au niveau en planche à voile, c'est qu'on se balade avec 90 kg de bagage.
J'allais dire aussi.
Ça, c'est beaucoup moins drôle. Des sacs immenses qui font 2,50 m de long. Qui sont
très bonne en logistique aussi, du coup.
Logistique de malade.
Organisation.
Chaque fois que tu arrives devant le comptoir à l'aéroport, tu as l'impression que la nana, elle a jamais vu ça, alors qu'elle a dû voir quand même des planches. Mais bon, c'est vrai que tout le monde se balade pas, heureusement, avec des planches à voile. Et puis on arrive sur les spots, il y a tout le monde qui déballe ses planches, arrête, ça parle, t'as quand même une tension, un stress d'avant compète, parce que le niveau est élevé, t'aimerais être meilleur que la fois d'avant, meilleur que la concurrente. En fait, il y a beaucoup de stress jusqu'au moment assez magique, pour moi en tout cas, où le compte à rebours est enclenché sur le chrono, sur l'eau, et là, à partir du moment où bam, j'ai appuyé sur mon bouton, moi je passe en mode présence totale. Ouais. Et forcément, du coup, il n'y a plus de place
pour tout le reste.
Ouais. Je suis dans ma stratégie, je suis en train de calculer la vitesse que ça va me prendre à une certaine distance pour couper la ligne à la vitesse maximum. Je suis déjà en train d'anticiper toutes mes trajectoires sur mes jibes, mes transitions que j'aurai à faire. Je regarde l'orientation du vent, je regarde le plan d'eau, je scanne le plan d'eau pour savoir à quel endroit je vais passer pour être la plus rapide dans le creux des vagues, etc. Enfin, et je regarde mes adversaires, où elles sont positionnées, où il va falloir que j'aille. Enfin, je suis en train de
en technique, quoi. Ouais. Et du coup, vous pouvez quand même vous tester les spots avant?
Oui, en général, on vient toujours à l'avance pour en effet tester le spot. Et puis parfois, si on a pris l'avion, il y a quand même un petit décalage, il y a la fatigue du voyage, donc faut arriver en avance. Je dis « on » parce que au fil des années, parfois, on se lie d'amitié quand même avec les gens de notre même nationalité. Ou pas, moi j'ai eu deux grandes copines qui sont toujours à des niveaux de différents sur la Coupe du Monde, c'est une Turque et une Espagnole, donc j'ai beaucoup voyagé avec elles. Je crois aussi l'envie de continuer à être véritablement en voyage.
Ça t'a permis de reprendre en même temps tout cet esprit voyage
En fait, ce qui m'agaçait un peu, en effet oui c'est vrai, ce qui m'agaçait un peu, c'est de voir que certaines nations restaient entre elles et finalement elles voyageaient, mais elles parlaient leur langue pendant tout le long et elles n'avaient rien vu, quoi. Moi, j'étais hyper curieuse, mais en fait, on n'avait pas trop le temps de visiter l'endroit où on allait.
Vous accordiez pas quelques jours à
non,
pouvoir visiter?
Pas très peu. Quand on arrivait avant, on allait simplement aller faire un ou deux restos, mais en fait, on passait notre temps sur l'eau. Donc, si tu prends le temps de discuter avec les gens, ne serait-ce que la serveuse, le cuistot, le chauffeur de taxi, tu peux en apprendre un petit peu sur le pays dans lequel t'es. Mais non, c'était pas le voyage tel que je l'avais connu. Mais tout de même. C'était quand même une forme de voyage.
Oui, c'est une autre forme de voyage.
Oui, on n'était clairement pas là pour ça, on était là pour performer, quoi.
Et du coup, vous êtes quand même à ce niveau de compétition, tu croises quand même souvent les mêmes personnes au final.
Oui.
Il y a une espèce de petite famille, j'imagine, qui se fait. Mm-hmm. Et vous savez que oui, vous allez vous retrouver comme ça un peu régulièrement, comme avec tes deux grandes copines.
Ouais.
Est-ce que vous donnez des tuyaux, des astuces? Est-ce que...
Ben, ça dépend avec lesquelles, en fait, c'est par affinité. Il y en a qu'on peut pas blairer, d'autres qu'on aime bien, d'autres on s'en fiche un peu.
Vous êtes nombreux dans le circuit?
Ouais, de mémoire. Alors, attends que je dise pas de bêtises, je crois que... on avait le droit, alors c'est vrai que c'est une bêtise que j'étais en train de dire tout à l'heure, il y a quand même des sélections parce que le nombre de participants est limité, donc il faut quand même envoyer ses perfs à la PWA, la Coupe du Monde, pour qu'elle veuille bien t'intégrer, sinon elle ne peut pas t'intégrer. En fait, chez les femmes je crois que c'est 15 et chez les hommes je ne sais plus si c'est 50 ou 70, mais 70, ça me paraît un peu beaucoup, puis ouais, ça a dû changer depuis. Mais donc, en effet, moi, j'ai toujours trouvé ça facile, parce que j'étais la meilleure, donc quand t'es la meilleure, c'est facile.
Non, il n'y a pas de sélection, je suis toujours prise, moi, je vois pas pourquoi.
Non, mais c'est vrai, ça m'a toujours paru simple, mais quand j'ai commencé un peu à faire des contre-perfs, là, d'un coup, j'ai...
T'as compris le revers de la médaille.
Ouais, en fait, clairement, j'avais jamais connu l'échec, moi, avant, j'ai toujours gagné, quoi. Ou quand je dis gagner, c'était être sur les podiums.
Oui, bah c'est, tu gagnes quand même, quoi.
Ouais.
Donc, du coup, t'es plus ou moins sélectionné d'office pour le suivi, donc t'as pas toutes ces étapes à faire de pré-sélection.
Mais oui, non, pour les tuyaux, bah, c'est surtout sur les compagnies aériennes. Et comment t'as fait pour aller à telle destination et pas te faire aligner par l'excédent de bagages? Ça, c'était une grande conversation, l'excédent de bagages. On parlait beaucoup de matos aussi, hein, pour avoir le matos qu'on voulait, de sponsors, parce que chaque fin d'année, tu te demandes si ton contrat va être conduit. Il peut y avoir la concurrence, il y a une grosse concurrence à ce titre-là, par contre, hein, pour avoir une place dans les grosses écuries de planche à voile.
Qui sont lesquelles?
Moi, j'ai été pendant 10 ans chez Nech, et là, depuis 10 ans aussi, je suis chez... aujourd'hui, ça s'appelle Fanatic et Duotone. Mais bon, ça, c'était extraordinaire aussi parce que j'ai vécu des trucs de malade. À l'époque, on allait faire les photoshootings à Hawaï. Il y avait robinage sur la plage avec les photographes, les autres riders. On faisait le petit débrief. Ok, maintenant, t'arriveras là, Sarah, moi, j'arriverai là, on fait un jai, nanana. Et de ce qu'on a appris, paf, il y avait l'hélicoptère dans le ciel. Nous, on était taqués à Hawaï avec nos maillots, la main dans l'eau, l'hélicoptère qui shootait avec le photographe au-dessus, robinage qui est donc une star de la planche à voile. Qui était l'égérie de la marque et qui était avec nous à l'eau, c'est des sacrés moments, ouais.
Ouais, du coup,
t'as l'impression d'être un peu magnum, quoi.
Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est simplement parce que tu l'as bien aimé. Si tu veux soutenir Oleti, la meilleure façon de le faire, c'est de me laisser un témoignage sur Apple Podcasts ou la plateforme de ton choix. C'est super simple, sur l'application Apple Podcasts ou Google Podcasts, cherche Oleti. Une fois que tu as trouvé le podcast dans la liste, clique sur s'abonner, puis glisse tout en bas jusqu'à la rubrique évaluation et tu vas pouvoir m'écrire un petit mot et me donner tes étoiles, 5 de préférence parce que bon, mon travail le mérite bien, non? Dis-moi aussi pourquoi tu écoute Oleti, quel impact a ce podcast sur ta
d'accord,
vie.
Changement,
merci d'avoir pris le temps de faire cette dédicace. C'est des gens comme toi qui font que l'émission continue. Bisous, à la semaine prochaine.
Tom Sawyer et MacGyver, par exemple.
Ah ouais, j'adorais aussi, je comprends.
ouais, alors je sais plus pourquoi je disais sur quoi on était.
Robinage, les stars, les photoshootings.
Oui, en fait. Ben, comme tout jeune planchiste, je lisais les magazines de planche à voile, et donc déjà quand j'ai fait mes premières compètes, que j'ai côtoyé les stars que je regardais sur mon magazine, c'était assez énorme. Et puis à Hawaï, tu côtoies les vieilles stars qui sont encore des superstars pour toi, tu vois, donc c'est assez drôle. Et puis les Américains, quand on est petit français, ça fait toujours un effet, les Américains, je trouve. Ouais. Ils arrivent avec leur gros 4x4 énorme, enfin ceci dit.
Ouais, ça, ici, on est quand même bien lotis.
Un des meilleurs, c'est Robert, hein, Territeo, qui arrive avec son énorme pick-up à Hoki Pa. Mais Robbie est pas mal dans son genre, hein, il a des roues assez monumentales.
Et du coup, tu parlais d'Hawaï. C'est donc l'un des meilleurs spots, j'imagine, pour faire de la planche?
C'est un des spots qui a vraiment lancé le funboard, donc la planche sans dérive. Parce qu'en effet, ce sont des vagues qui déroulent sur une dalle, qui sont facilement accessibles pour les pratiquants et pour les accompagnants et du coup les photographes. Donc ça a vraiment valorisé assez rapidement et facilement le sport et avec donc ces vieux champions que tout le monde connaît. C'est pour ça que je parle d'eux, hein, quand je parle de planche, parce que si je vous parle des jeunes, même un qui est moins jeune aujourd'hui comme Anton Albo, notre multiple champion du monde, je ne sais plus à combien de titres il est, mais c'est assez incroyable. Voilà, c'était l'époque du Baron de René, de Jenna, de Aubert, de tous ces gens-là d'avant.
Bah, après, c'est obligatoirement, on a tous des références, puis c'était les précurseurs, parce que ça date de quand à peu près la planche?
En fait, on va dire que la planche a vraiment eu un boom. D'ailleurs, avec une des planches que j'utilise aujourd'hui pour préparer les Jeux du Pacifique, je navigue avec la Windsurfer. C'est une planche qu'utilisaient nos parents avec une dérive. Et en fait, ces planches-là, elles avaient l'avantage d'être super accessibles financièrement et faciles à utiliser parce que très volumineuses, donc on ne tombait pas stable, etc. Donc apparemment, à l'époque, ben je pense que c'est quand je suis née, hein, dans les années 80, 84, tout le monde avait sa planche sur le...
Ouais,
sur
j'allais dire, moi j'avais l'impression que ça avait été lancé dans les années 70, un
ouais,
boom, 80.
Ça doit être, enfin, là, le boom, ça. C'était vraiment les années 80, je pense. Moi, je suis arrivée après, mais c'était déjà encore des années sympas, mais c'est vrai que plus on avance, c'est plus... c'est différent. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas... tout le monde qui fait de la planche à voile, alors que vraiment, dans les années 80, apparemment, tout le monde avait une planche, quoi.
Bah, c'est-à-dire que maintenant, il y a plein d'autres choses qui ont été lancées.
Aussi.
Et du coup, la planche à voile a d'autres, enfin, moins d'adeptes. C'est, comme tu dis, c'était le seul sport qu'on pouvait pratiquer.
Et en fait, le matériel s'est spécifié pour aller vers le haut niveau. Et du coup, on est allé dans des planches beaucoup plus techniques, beaucoup plus chères, moins faciles à pratiquer. Voilà, on peut s'y perdre un petit peu quand ça devient trop technique dans un sport.
Ouais, et puis il y a tellement de variantes, tu vois, ici il y a beaucoup de kite, de wing.
Ouais. Enfin, ici il y a le kite qui est bien pratiqué, ouais, beaucoup.
Ouais. Et c'est vrai que.
Entre deux campagnes de pêche. Hashtag.
Hashtag les locaux seront à vos risques et périls.
À vos risques et périls.
Mais du coup, toi, tu es concentrée toujours sur la voile et tu fais pas que de la planche à voile. Tu t'es quand même testée sur d'autres choses aussi en parallèle, j'imagine.
Ouais, bah, à la fin ça de doit être carrière, tentant. J'ai fait plutôt... pendant la carrière, en fait, le truc, c'est que moi, je suis très curieuse, mais je suis aussi quand même très raisonnable. J'adore sortir de ma zone de confort, me challenger, vivre l'aventure. Vraiment, c'est ce que je préfère. Mais ceci dit, je suis quelqu'un de très raisonné. Donc, quand j'y vais, c'est que je sais que j'ai le niveau d'y arriver. Et donc, pendant ma carrière, j'avais pas envie de me blesser, en fait. Donc, j'ai testé plein de trucs, mais j'y allais quand même mollo. Donc, j'ai fait beaucoup de planches à voile dans les vagues, du stand-up paddle dans les vagues, mais toujours avec un peu de retenue. Donc, ça a été assez la libération quand j'ai décidé d'arrêter la Coupe du Monde et de me concentrer juste sur les explorations, les expéditions où je partais avec ma planche ou mon stand-up paddle, une équipe média pour faire des reportages vidéo ou écrits pour les magazines internationaux. Moi, j'écrivais et puis... on envoyait les photos des photographes, tout ça pour mes sponsors. Et quand j'ai
là, tu le faisais en parallèle quand même des compétitions.
Non, ça c'était après les compétitions.
C'est vraiment quand t'as arrêté les compètes. Ouais. Quelle année à peu près?
Eh ben, c'était avec ma traversée de l'Atlantique en planche à voile, février 2012. Je m'ai lancée pour la traversée de l'Atlantique avec une planche de Monsieur Toulouse. Mais là, on va les perdre, les pauvres. Donc, il faut resituer.
Resituer.
À l'âge de 22 ans. Alors que j'étais à l'apogée de ma carrière sportive. J'ai fait un test d'effort pour la Fédération Française de Voile, parce que c'est obligatoire, on est quand même suivi, ça c'est cool. Et on a détecté chez moi une tachycardie ventriculaire catécholergique, pour être précise, 280-300 pulsations minute. Donc là, ma mère qui est infirmière qui était là et mon cardio ici à la clinique de la Baie des Citrons ont fait les yeux de The Mask. Je sais pas si vous voyez le loup là. Ils ont sauté sur le bouton stop et en fait j'étais clairement normalement en risque de mort, de fibrillation. Donc un cœur qui fibrille, c'est un cœur qui se met à battre de façon ultra rapide mais avec aucune amplitude. Donc le sang ne sort pas, ne va pas, ne peut pas irriguer toutes les parties du corps. Souvent c'est la fibrillation, donc c'est un cœur qui, un corps qui va finir par mourir. C'est pour ça qu'on a des défibrillateurs externes. Je vous encourage tous à savoir que ça existe, à s'en servir. Je sais pas si c'est le cas, mais en France, il y a des applications comme ça. Si quelqu'un un jour fait un arrêt cardiaque devant vous, tombe, vous chopez votre appli et vous pouvez aller mettre le défibrillateur et lui sauver la vie. Tout est expliqué. En plus, ils sont semi-autonomes aujourd'hui. Vous n'avez rien à faire. N'ayez pas peur de vous en servir si ça vous arrive un jour. Vous pourrez sauver la vie de quelqu'un. Bref, moi, ils ont cherché à savoir ce que c'était. Faut savoir qu'au même moment, je perdais mon père d'un cancer. Il est mort dans mes bras. C'est très lié.
Ouais.
C'est très lié. On avait un rapport fusionnel avec papa, donc voilà, moi je dis souvent main lâchée, cœur brisé. Et je pense que c'est vraiment le cas. Quelques mois après des batteries d'examens à Paris, dans les plus grands hôpitaux, des rythmologues, des pompes, de la discipline, on n'a rien trouvé d'anormal, mais j'étais quand même en risque de mort, donc ils ont préféré m'implanter un défibrillateur cardiaque. Ça peut ressembler à un pacemaker, en gros c'est deux tiers de votre smartphone, c'est assez gros, c'est assez lourd. C'est placé dans le muscle pectoral chez les jeunes sportifs. Et on a une sonde qui part jusque dans le ventricule avec une petite hélice qui est là pour recevoir tous les stimuli du cœur, les analyser dans son... d'ordinateur, et si jamais il détecte une anomalie, il va envoyer une tachycardie ventriculaire. Ventricule, c'est la grosse partie du cœur, l'auricule, c'est la petite partie. La petite partie. On fait aussi des tachycardies auriculaires, elles sont moins graves parce qu'elles mobilisent moins grosse. Donc si jamais ça arrive, le boîtier est là pour envoyer un choc et ça va resynchroniser toutes les cellules cardiaques et on va repartir sur une synchronicité normale du cœur. Donc voilà, moi j'ai ça, j'ai un petit boîtier dans le cœur depuis mes 22 ans. Donc ça a été quand même assez un choc, parce que moi je me sentais en forme, en pleine forme, même si j'avais eu des passages anormaux où j'avais déjà ressenti des tachycardies. Mais je me suis pas trop attardée sur la question. Ok, c'est bizarre, j'ai un truc de vieux, mais c'est comme ça. Il y a une solution, c'est le défibrillateur. Ben banco, on y va. Et je vais tout faire pour retourner sur l'eau, puisque moi, c'était ma vie d'être sur l'eau.
C'était ce qui faisait vivre, quoi.
J'avais toujours été sur l'eau. Ah ouais, carrément. Donc à l'époque, j'avais dit à mon chirurgien, ok, on l'implante, mais moi, je veux que tu me signes ma licence derrière pour retourner en compète. Donc il m'avait dit oui. En pensant que j'allais être un peu découragée par les douleurs post-opératoires et que ma motivation allait en être touchée. C'était mal de connaître. Ça faisait super mal. Hein. Quand je me suis réveillée, le corps étranger dans la poitrine, voilà, la morphine pendant quelques jours, ça faisait super mal. Dès que je tirais sur mes bras, ça faisait super mal.
Il y a de la rééducation et tout.
Et non, pas de rééducation.
C'est surprenant.
Attends, j'essaie de me souvenir, mais non, pas vraiment. En plus, j'ai eu une...
Il y a juste un suivi médical.
Ouais. Et j'ai une cicatrice de... Souvent, les peaux de jeunes font ça, kéloïde, où en fait, ça surcicatrise, donc ça rajoute de la peau, donc c'est pas très beau. Et surtout, ça gratte. Pendant des années, ça gratte. Et au fur et à mesure, ton corps, il finit par comprendre que c'est bon, on peut arrêter de cicatriser, tout va bien, la plaie est fermée.
Et du coup, toute cette opération, tout ça, tu l'as fait ici, aux États-Unis,
à France,
à Brest.
Ouais, je me suis fait implanter à la cave à Blanche à Brest. J'ai fait tout mon suivi, les recherches, les investigations, elles ont eu lieu à Paris. Et puis après, j'ai été suivie par un super rythmologue à Nantes.
D'accord. Je remarque quand même que tu te rapproches de la mer au fur et à mesure. Hein, la compagnie est aussi plutôt connue pour ses spots.
Non, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, j'ai cherché à un moment donné, parce que les médecins ne voulaient pas me re-signer mon droit d'aller à l'eau, de faire de la compète, surtout de faire de la compétition. Et puis, j'ai quand même cherché, je me suis dit, est-ce que ma passion l'emporte sur la raison ? Donc, j'ai essayé de rencontrer différents comptes pour leur demander leur avis et puis d'être assez lucide pour voir s'ils étaient simplement en train d'ouvrir un parapluie pour pas trop prendre de risques dans les opinions qu'ils allaient me donner ou si c'est moi qui m'emballais. Puis finalement, j'ai eu la chance de rencontrer ce médecin-là à Nantes qui, lui, était professionnel en ski nautique. Ah, et oui. En fait, il m'a dit, ben, écoute, oui, il y a des risques comme partout. Mais si on t'a mis un défibrillateur, c'est pour que tu continues à vivre. Et si toi, la vie, c'est la planche à voile, eh ben, il faut continuer. Oui. Il y avait deux gros risques dans la continuité de mon parcours en planche et donc sur l'eau. C'était le plus gros que mon défibrillateur choque quand j'étais sur l'eau. Et on va dire qu'il y a 50% des gens qui ressentent comme un gros coup de sabot dans la poitrine. Oui. Quand ça arrive. Et l'autre pourcentage, je dis 50, en fait, j'en sais rien, mais il y a deux catégories, on va dire. Et l'autre partie qui va, elle, carrément tomber dans les pommes, tellement le choc, il est fort.
Ah oui, et si
donc,
tu tombes dans les pommes.
Si je tombe dans les pommes sur l'eau, je peux me noyer. Donc, je portais un gilet à l'époque. Et il y a aussi un autre risque, c'est si on fait des disciplines où on doit lever le bras souvent, par exemple, heureusement que j'étais pas une nageuse de haut niveau, parce que là, on peut finir par user la sonde qui est sous la clavicule, qui va jusque dans le cœur, et si on use l'enveloppe du câble, qui est en plastique, je pense, ou enveloppe, je ne sais pas trop en quoi elle est, on va mettre ce câble à nu, et il va recevoir plein de stimuli qui n'ont rien à voir avec le cœur. Il pourrait prendre ça pour une anomalie et donc il va se mettre à choquer de façon ininterrompue. Des chocs à répétition jusqu'à ce qu'on lui mette un aimant sur le boîtier. Donc c'est pour ça que moi j'avais un aimant dans mon petit camion. J'avais dit à mes potes, un jour si je reçois plus de un ou deux chocs, plus de deux chocs à la suite, c'est qu'il y a un souci et qu'il faut aller m'aider, prendre l'aimant et le mettre sur mon boîtier. Normalement, toutes les ambulances ont des aimants et devraient le savoir pour un défibrillateur qui se mettrait à choquer de façon, on va dire plus de 4-5 chocs, il commence à y avoir un souci, quoi.
Bon, alors, on voit que, bon, en même temps, c'est un problème avec lequel tu vis depuis des années, que t'es hyper au point, que tu en parles très très bien d'un point de vue technique. Est-ce que du coup, je sais ce qu'on en a parlé, que entre autres tu as été en l'égérie à représenter.
Ouais, en fait, donc du coup on avance dans le chemin. Derrière l'implantation, j'ai réussi à retrouver mon niveau. Mon entraîneur de l'époque m'avait dit, écoute, moi je pense que ce serait bien que tu fasses les championnats d'Europe. Je l'avais regardé avec des gros yeux. C'était 2 mois après mon implantation. T'es sûre de ton coup ? Dis oui, oui, ça va te faire du bien mentalement. Donc j'y suis allée et j'ai remporté le championnat d'Europe. J'en avais encore mal, mais j'étais tellement heureuse d'être là, tellement soulagée d'être là, parce que j'avais vraiment cru que j'allais finir ma vie à faire de la pétanque.
T'aimes pas la pétanque ?
Non, mais c'est cool, hein.
Fais gaffe, il y a une grosse fédération ici.
Ouais, c'est vrai. Voilà, j'ai gagné.
Du coup, ça t'a motivé, tu t'es dit, je peux continuer.
Et après, ça m'a lancé,
quoi.
Sauf que juste derrière, la fédération française m'est tombée dessus, j'ai été convoquée à Paris par la commission médicale qui a statué que j'étais inapte à la pratique de haut niveau et que, donc, merci, au revoir. Donc, je me suis retrouvée en pleine semaine, je me souviens, c'était une semaine où il faisait pas mal, le ministère des Sports faisait pas mal de publications par rapport au suicide post-carrière, aux dépressions post-carrière.
Super, ils n'aident pas non plus hein, dans ces cas-là.
Et en fait, moi, clairement, on m'a mis à la porte de ma nation, de ma fédé, sans aucun suivi psychologique, rien. C'est ciao, bye bye, merci pour les titres que tu as apportés, mais aujourd'hui, tu es inapte, débrouille-toi, fais autre chose, le tricot, c'est très bien. j'aime bien le tricot aussi, hein, mais... plus la couture.
Oui, je comprends, moi aussi. Tu peux tester le crochet aussi, il y a des trucs à faire.
Donc voilà, donc c'était la brouille totale, parce que moi, je savais profondément que je pouvais
que tu
encore...
pouvais, t'avais remporté des compétitions.
Voilà, faire de la compète, en adaptant ma pratique pour...
respecter tes problèmes médicaux.
Voilà, voilà. Et... sauf que j'avais plus de licence et j'avais interdiction de naviguer sur le sol français en compétition. Forcément, j'avais plus le droit de faire les compètes, donc forcément, je commençais à perdre tous mes sponsors. Heureusement, en parlant à droite et à gauche, il y a le directeur technique de la fédération arménienne qui a entendu parler de moi et qui m'a demandé si j'étais intéressée pour intégrer leur équipe et faire en sorte d'amener... de participer aux Jeux Olympiques pour l'Arménie en planche à voile. Pour moi, je n'ai jamais fait de planche olympique, mais j'ai trouvé le challenge super intéressant. Et puis l'Arménie, c'était pour moi quelque chose de vachement curieux parce que j'ai toujours été révoltée par l'injustice et très curieuse des petits canards noirs, enfin, de ceux qui sont différents. Et pour moi, l'Arménie, c'était un mythe. Comment on avait pu supprimer de la carte comme ça une culture, enfin, à ce point-là, les martyriser, enfin...
L'air de rien et que ça passe inaperçu quasiment
ouais.
Au reste du monde.
Et j'y connaissais pas grand-chose à l'époque, mais je me suis dit, waouh, c'est un tout petit pays Eh ben, allez, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'était parti. Alors, c'est très drôle qu'on soit toutes les deux aujourd'hui ensemble. Hein.
Oui, car du coup,
j'étais... Tu as des racines arméniennes.
À Gazarian, je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Non, mais la vie est incroyable. La vie est incroyable.
Non, mais c'est pour ça que quand tu m'as contactée et qu'on a fait ce premier thé ensemble à la case, je me suis dit, non, il y a trop de signes, il y a un truc, c'est juste pour me dire, il faut te relancer. Vas-y, c'est elle, ta prochaine invitée.
Ouais, non, c'est drôle. En fait, il y a une diaspora arménienne partout. Ils ont plein de choses à raconter. Enfin, l'Arménie, culturellement et religieusement, c'est hyper riche. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait pour garder leur culture qui est très liée à la religion aussi.
Il y avait beaucoup de religions différentes, malgré tout.
Ouais, carrément. Non, mais moi, du coup, j'ai eu la chance d'y aller. En fait, pourquoi j'ai réussi à avoir la nationalité arménienne pour la planche à voile, qui est un petit sport, c'est pas les sports que soutiennent l'Arménie d'habitude. Parce que Robert Khocharyan, qui était le président à l'époque, était lui-même un windsurfer. Donc, quand son DTN lui a dit « on t'a trouvé une athlète », bah il a pris son papier, il a signé mon passeport, et puis voilà, j'étais devenue... franco-arménienne, calédo-franco-arménienne, je précise. Donc j'ai toujours mon passeport arménien, dont je ne me suis jamais servi, bien évidemment, pour les visas au extérieur d'un passeport français.
Hein. Ah bon, je ne comprends pas pourquoi, c'est beaucoup plus facile, tu veux dire.
Ouais, par exemple.
Donc les tips avec les autres, donc, je prends que mon passeport français.
Non, mais je le garde précieusement. Et puis voilà, et puis j'ai été en Arménie, sur le lac Sevan, en altitude, un lac incroyable, où j'ai rencontré le président sur sa planche à voile, on était assis au milieu de nulle part avec les nuages qui commençaient à descendre sur le flanc de ces montagnes, son garde du corps sur un jet ski à côté, la Kalachnikov dans le dos, et puis j'étais en train de discuter avec ce chef d'État de planche à voile, de sélection, de Jeux Olympiques. J'en ai profité quand même à la fin pour lui souligner que son wishbone était bien trop bas. J'aurais pu rajouter qu'il avait un look de crapaud, mais j'ai pas osé. Et donc, il est reparti avec un wishbone un peu plus haut et une allure nettement plus fière sur sa planche à voile.
Il devait être ravi de cette rencontre.
Et il a dû se dire, ah, c'est vrai que c'est mieux comme ça. Hein, c'était super. Et donc, il y avait tous ces jeunes qui faisaient de la planche à voile. Et puis, dans ces pays-là, c'est chouette parce que il y a quand même des pressions qui sont encore énormes. Enfin, il y a la corruption, là, il y a la mafia qui est ultra présente, il y a la pauvreté à Erevan qui est encore très présente. Moi, je suis rentrée dans les logements de la famille de mon DTN. C'est des vieux immeubles qui font penser à la Russie, à l'URSS même, je pourrais dire.
Enfin, alors, attends, DTN.
Directeur technique national.
Merci, madame.
Donc, ouais, non, c'était, voilà, là, pour le coup, c'était l'aventure, c'était vraiment l'aventure, c'était...
Et là, t'as vraiment découvert la culture, t'as vraiment...
Ouais.
T'y as passé combien de temps?
Oh, je sais plus, ça devait être une quinzaine de jours.
Ouais. Et en 15 jours, t'arrives à tomber sur le président sur un lac.
Ouais.
C'est pas mal, quand même.
Ouais, ouais, carrément.
Bon, alors, ok, on t'avait donné des tips, genre une planche à voile rouge au loin, vas-y, fonce, c'est lui.
Exact, exact, on m'avait dit ça. Mais oui, non, c'est très drôle. Alors, par contre, j'étais l'intrus, hein, parce que là-bas, ils sont très beaux. Ce sont tous des bruns aux yeux bleus, des brunes aux yeux bleus, très belles, très beaux. Et moi, j'étais blonde, aux yeux bleus, ceci dit. Non, j'ai plutôt des origines vikings, apparemment. Et ça arrivait en Normandie, mais voilà.
Bah, écoute, en même temps... Ouais.
Et alors, je sais plus pourquoi je vous défile ce...
Cette histoire-là.
Parce
qu'on était sur le. Tu avais été interdite de compète en France.
Ouais, mais.
L'Arménie est venue te chercher.
Je suis venue à parler de tout ça parce qu'on était déjà sur les expéditions, en fait. Mmh. Je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Mais donc voilà, j'ai fait des hauts niveaux et après, c'est là où j'ai fait mes plus belles performances. J'ai été donc championne d'Europe. Ça, pour moi, c'est la plus belle des. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. Mon championnat d'Europe, parce que c'était seulement deux mois après mon implantation, que j'en avais vraiment chier, que ça a été vraiment dur, que je devais m'entraîner toute seule, j'avais plus le droit de m'entraîner avec mon groupe d'entraînement, parce que, on a démenacé mon entraîneur, quoi. J'avais plus le droit de m'entraîner.
Ah, parce qu'habituellement, vous vous entraînez en groupe, malgré
tout. C'était cool, ouais, ça faisait quelques années que j'avais rejoint l'école de nationale de voile, où on avait un entraîneur, c'est là où j'ai rencontré, mon compagnon d'aujourd'hui, le père de mes enfants, et voilà, j'étais dans mon petit camion, en plein hiver, sur la plage d'à côté, à les rejoindre quand même sur l'eau au début, et puis après, ça, on a arrêté, parce qu'il y a trop de pression sur l'entraîneur, donc je voulais pas m'ennuyer, quoi.
Ah ouais, c'était vraiment très suivi et très cadré.
Ouais, parce que moi j'ai essayé de pas me laisser faire. Il y avait des organisateurs de compétitions comme aujourd'hui le plus grand rassemblement de planches en France, le Défi Wing, qui me soutenait. On avait fait des pétitions avec, je crois, on en était à 1500 signatures. Mais bon, là il y avait simplement un parapluie qui a été déployé au niveau des assurances. Ils voulaient pas prendre le risque et m'assurer pour cette pratique-là. Mais bon, c'était pas grave. Ça y est, je retombe sur mes pieds. C'était pas grave parce que j'avais trouvé un pays qui m'accueillait, donc une licence sportive. Je pouvais reprendre mes compétitions. Pas en France, donc là ça m'a quand même un peu enquiquiné dans ma préparation parce que je pouvais plus m'entraîner sur les épreuves françaises pour préparer les épreuves internationales. S'il y avait une Coupe du Monde qui passait en France, j'avais pas le droit de la faire, donc ça c'était bien sûr dans mon classement général, il fallait vraiment que j'assure. Et puis pareil, du coup les sponsors je les ai retrouvés et c'est là que tu vas faire, mais oui c'est de ça qu'on parlait. Parce qu'il faut de l'argent.
Du coup,
l'argent c'est le nerf de la guerre et en fait... Bling, une petite ampoule s'est allumée dans ma tête et je me suis dit, mais en fait mon expérience, il faut que j'en parle, elle peut être utile aux autres, parce qu'en fait nous les porteurs de défibrillateurs, on n'est pas tous à mettre dans la même catégorie. Moi j'ai la chance de pas avoir de maladie, de pas avoir de syndrome de Brugada, de malformation. Donc finalement j'ai un défibrillateur qui a été là comme un ange gardien, mais qui s'est jamais mis en route. Mon cas est très léger finalement. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on a un défibrillateur qu'on peut pas faire de prêt pour s'acheter une maison, qu'on n'a plus le droit de vivre et de faire du sport à haut niveau. Et non, le truc est bien plus compliqué que ça. Il faudrait vraiment aller en détail au niveau dans le fichier médical pour faire des différences. Et Je me suis dit, à l'époque, je m'étais rapprochée de l'APODEC, qui est l'association des porteurs de défibrillateurs en France. J'avais commencé un peu à parler dans des réunions. Au départ, il y avait des vieux, mais au fur et à mesure, il y a de plus en plus de jeunes. Donc, je les soutenais. Je les disais, mais non, c'est rien. La vie continue. Accrochez-vous. On m'écrivait de plus en plus sur Internet. Et en parlant avec le directeur de cette association-là, président, on dit, je crois d'ailleurs.
Président.
Il m'a dit, tu sais, il y a le colloque international de la cardiologie qui a lieu à Nice. Tu devrais peut-être venir, peut-être faire un dossier de sponsoring et voir si tu peux démarcher. Excellente idée. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir les 3-4 plus grosses marques de défibrillateurs en France. Et c'est donc ma marque, Boston Scientific, qui a accroché. Et alors là, tu tombes dans un autre monde. Hein. Parce
ah
que
oui.
La pharmaceutique, enfin, je sais pas si on
dit ça. Il y a des
sous.
Ça, hein. Oui, le milieu pharmaceutique.
Ah, mais c'est un truc de barjo. Enfin, c'est une
hein, à côté des planches à voile, c'est pipi de
chat. Ah non, c'est vraiment une autre planète. Et je suis tombée sur des gens humains super sympas. Ouais, c'est vraiment des gens qui me suivent encore sur les réseaux sociaux, avec qui j'échange un petit mot de temps en temps, au grand cœur, sans faire de jeu de mots. Non, vraiment des gens super qui ont soutenu mes performances sportives derrière. Et pour qui j'ai réalisé des conférences un peu partout, à différents maillons de la chaîne dans leur société. En fait, moi, mon rôle, c'était de leur montrer. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Hein. C'était vraiment... quand ils ont vu que j'avais cette capacité à parler assez facilement de mon histoire et à motiver les troupes, et que je parlais bien anglais, et ben ils m'ont envoyé à différents endroits. Je me souviens être allée donc à Amsterdam, dans le centre de distribution, où ils empaquent les défibrillateurs dans des boîtes en carton, et ils les envoient dans les différentes destinations des futurs patients. Et donc ben, moi je leur disais, ben, voilà, peu importe le rôle que vous avez dans cette entreprise, il est indispensable. Un jour, quelqu'un a mis mon défibrillateur dans une boîte et il a eu ma vie, mes rêves entre ses mains. Et c'est grâce à cette personne qu'aujourd'hui je fais de la planche, je gagne et surtout je suis heureuse. Et pareil, après je suis partie à Minneapolis aux US, faire une conférence devant 4000 personnes en anglais dans une église protestante. C'est Welcome, Mrs. and Gentlemen, Sarah Hibbert. Et là, t'as les paillettes qui tombent du ciel, le spot sur toi. Hello! Petit accent français. C'était super parce qu'en fait c'est drôle, mais avant que tu leur parles, ces gens là c'était des scientifiques plutôt, enfin des techniciens scientifiques, je sais pas comment on appellerait ça,
des chercheurs.
Ouais, il y avait un peu tout, mais surtout ceux qui m'ont le plus marqué, c'était, il y avait des boîtes en plexiglas complètement hermétiques où ils enfourchaient tous leurs avant-bras dans des gants stériles et ils avaient assemblé les pièces de défibrillateurs. Et c'est comme ça que les défibrillateurs, qui sont en titane avec une batterie sophistiquée, tout,
ils sont hyper stérilisés.
C'est un ordinateur, quoi, ouais. Ils sont stérilisés, qu'on peut après les mettre en sécurité dans notre corps. On peut mettre ce corps étranger là, déjà c'est un corps étranger dans notre corps. Et avant que tu parles avec ces gens-là, ils le savent pourtant que les défibrillateurs, c'est là pour nous sauver la vie, quoi, en cas de besoin. Mais avant que tu ailles les voir, pour eux, ils se disent juste, ben moi je suis là, je mets une batterie dans un défibrillateur, ben moi je mets un défibrillateur dans une boîte en carton. C'est pas forcément toujours valorisant pour eux. Et quand ils voient l'objet final de leur métier, là d'un coup, ça leur permet de prendre de la perspective et de se dire, mais non, c'est quand même juste ouf le métier que je fais. J'ai un rôle dans la vie de ces gens qui est
Bah, c'est le fait d'avoir aussi un exemple et d'avoir des cas concrets, en fait. On a toujours l'impression que ce qu'on fait est pas forcément aussi important et a pas un énorme impact. Et en fait, c'est les autres et le regard des autres qui vont permettre de te rendre compte quand t'as un exemple concret de qu'est-ce que ça a apporté ou derrière quelle vie ça a pu transformer ou modifier. Là, oui, t'as une autre vie.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Océanienne Inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et à en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Océanienne Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspirée.